bonjour et bienvenue sur Radio Campus 88.3. Vous écoutez Double Saut, une émission qui parle de jeux vidéo. Je suis Pinson.
Et je suis Amir. Bienvenue les amis. En vrai, il s'appelle Clément. Il se cache derrière ce masque depuis trop d'années. Le jeu cesse tout de suite.
Baisse peut-être un peu le bed, cher ami.
Voilà. On baisse le bed pour les non-initiés. C'est la petite couche de musique que nous avons rajoutée pour votre confort auditif, parce que nous sommes comme ça ici à Double Saut. On aime que les auditeurs soient au chaud, couconnés par nos voix.
J'ai envie de dire de rebaisser encore un tout petit peu. Donc on est aujourd'hui avec vous pour parler de finir ces jeux de complétionnisme. Et mon cher Amir a quelques mots à vous dire.
Eh bien oui, parce que finir ces jeux, ça paraît peut-être évident, comme finir un film, finir un livre, surtout un film, un jeu qu'on a aimé, qu'on a apprécié, on le finit. Mais en fait, c'est pas si évident que ça dans la pratique, puisque nous sommes beaucoup à pas finir tous nos jeux, même des jeux que nous avons appréciés. Alors on va se poser la question, est-ce que finir un jeu, c'est essentiel pour l'expérience de jeu, pour se souvenir d'un jeu, pour pouvoir en parler? Doit-on parler que des jeux qu'on a finis? Clément, qu'en penses-tu? Tu as maintenant 20 heures.
J'ai 20 heures, ouais, c'est parti. J'ai envie surtout de commencer par toi. Donne-moi maintenant un jeu que tu as fini, que tu considères comme ayant fini. Et pourquoi ce jeu? Et pourquoi l'avoir fini?
Alors, question très simple, je l'ai fini parce que j'ai apprécié. Et je pense que un jeu qu'on aime, on le finit parce qu'on est pris dans l'histoire, dans ce qu'on a à faire dedans. Mais après... qu'est-ce que finir un jeu? On va se poser la question, parce que je crois qu'on ne finit pas les jeux de la même façon tous. L'un des premiers jeux que j'ai fini, je pense que c'est Super Mario Land 2 sur Game Boy, où j'ai battu Wario à la fin dans le château, après avoir réuni toutes les petites étoiles. Voilà.
Ah oui, pour revenir, on reviendra sur qu'est-ce que finir un jeu bien plus tard dans l'émission. Je pense que... il y a plein de choses qui font, ça dépend du jeu, ça dépend de l'ère à laquelle le jeu est sorti. Maintenant, il y a plein de marqueurs qui permettent de définir, entre guillemets, le jeu qui a été fini, soit par les succès, soit par un pourcentage qui est dans le jeu. Il y a eu plein de marqueurs là-dedans, mais ça, on reviendra dessus. Mais donc, c'est surtout quelque chose de, là, je pense, de subjectif. Je te demandais pourquoi tu as fini le jeu. Moi, celui qui me vient tout de suite, c'est Final Fantasy VII. Hein, j'arrête pas de parler de ce jeu, encore et toujours. FF7, moi, j'ai considéré l'avoir fini, en me disant que il me restait des choses à faire, mais j'ai eu une petite frustration en fait à l'époque, quand j'avais déjà fini le jeu, mais je m'étais dit il y a des armes à faire, il y a des trucs à trouver que je sais que j'ai pas fait. Quand j'ai voulu y rejouer sur la PlayStation 1, mon frangin l'avait déjà vendu à la brocante, donc de toute façon j'ai pas pu vraiment. J'ai fini l'histoire quoi, mais je pense qu'il y avait le jeu avait encore des choses à donner que j'avais envie de prendre, mais quand j'ai voulu le refaire en émulation, j'avais plus le temps.
Oui, alors moi, petit, j'ai fini Pokémon. On parlait aussi, quand on préparait l'émission, j'ai beaucoup joué au premier Smash Bros. J'ai fini tout ce qu'on pouvait faire dessus. Mario 64, voilà, il y a pas mal de jeux que j'ai fini. Mais moi, je pense qu'il y avait le palier de la difficulté qui m'empêchait vraiment souvent d'aller au bout. Surtout les jeux des années 90, ce que je te disais tout à l'heure, il y avait une espèce de palier arrivé en fin de jeu où on augmentait un peu la difficulté du jeu pour donner l'impression que c'était... Moi, souvent, ça me coupait. J'ai des frustrations, le jeu que j'ai pas fini. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Mais récemment, j'ai bien aimé Outer Wilds. Ça, j'ai trouvé très intéressant de le finir. Et alors, j'étais très déçu d'une fin de jeu. J'y pense maintenant. Et c'est vrai que, tu vois, on parlait de 12... Enfin, on n'a pas souvent parlé de 12 minutes, mais qui est un jeu intéressant. Très brièvement, en fait, on a 12 minutes pour... résoudre un meurtre et un kidnapping.
En fait la première fois que vous lancez le jeu, on en avait parlé déjà dans l'épisode du temps, la première fois que vous lancez le jeu et que vous jouez normalement, vous êtes dans votre appartement avec votre femme. Merci, je pense que c'est très ok comme ça. Vous rentrez de votre travail, vous rentrez dans votre appartement avec votre femme et au bout de 7-8 minutes, quelqu'un rentre et dit, commence à dire des méchancetés à votre femme et finit par la tuer au bout de 12 minutes. Et après, vous revenez au début de cette journée, vous essayez de comprendre par différentes actions, de grappiller des informations. Mais je comprends, la fin, c'est, en plus c'est un jeu histoire, quoi. Tu étais supposé vouloir comprendre le tout, et quand t'arrives à la fin, t'es un peu déçu, quoi.
Bah t'es déçu, la fin est bâclée, et c'est très simplement ce que je voulais dire qui va servir un peu de prélude à toute cette discussion, d'introduction plus précise, on va dire, sur le fait que c'est une réalité dans le développement d'un jeu vidéo, c'est toujours le début du jeu dans lequel il y a le plus de temps investi, parce que forcément c'est au début du processus de création, donc on est moins dans les horaires forcés, dans la deadline, aller plus loin. Et puis surtout, c'est là où il y a le plus de moyens, parce qu'on commence à consommer le budget, les équipes sont moins fatiguées, tout le monde a... Voilà, c'est logique. Et en fait, la fin du jeu, souvent, les équipes sont tendues, il y a le crush. Et comme un jeu se fait sur son pitch de départ, et que c'est là qu'on doit accrocher le joueur, ben, c'est forcément les débuts de jeu qui sont souvent les plus mémorables. On peut penser à un jeu comme Uncharted 2, qui a vraiment marqué tout le monde avec sa scène du train au départ et qui nous accroche, quoi. Et c'est devenu une espèce de marqueur pour l'industrie des gros jeux où la première scène doit être rythmée d'action. Et d'un autre côté, il y a aussi toute la tendance des jeux assez lents où on va prendre le temps d'appréhender le jeu. Donc voilà, mais en tout cas, le début, c'est quand même montrer tout ce que le jeu sait faire assez vite. En 4-5 heures, on doit être capable de voir est-ce que je vais m'amuser 30, 40, 50 heures ou est-ce que ben, je lui dis... au revoir.
Est-ce que j'ai envie d'investir de temps là ? C'est avant même de se dire est-ce que je le finis, c'est est-ce que je l'entame, quoi. Et ça serait qu'on reviendra là-dessus, c'est avec l'ère qu'on est en train de vivre où on a de plus en plus de jeux vidéo, c'est une réflexion qu'on va appliquer naturellement et instinctivement en fait, de plus en plus. Trop de jeux, donc comme tu dis, tu t'accroches aux 10-20 premières minutes et en fait tu sais déjà si ça te plaît, ça te plaît pas, s'il y a un minimum d'intérêt, un minimum de curiosité.
Oui. Moi, j'ai la sensation en ce moment, on n'en a pas parlé, mais il y a quelque chose quand je commence un jeu qui va être tout de suite rédhibitoire. Ça va être, on se balade un petit peu, on est tout de suite bloqué par quelque chose, on doit faire... Enfin, ça nous explique, on n'est pas libre et on sent qu'on est vraiment dans un couloir tiré, tout nous est comprimé, le jeu ne nous laisse pas la place de souffler pendant les premières minutes pour nous dire tout ce qu'il veut nous dire. Et ça m'agace terriblement. En fait, parfois, je vais même pas au bout parce que je me dis, fou, laisse-moi vivre un peu. Au pire, je cours 2 secondes. Ça te fait rien, quoi.
Bah, en plus, généralement, ça peut être révélateur de OK, t'as envie de me montrer tout de manière forcée maintenant. C'est que tu doutes quand même sur la suite de ton jeu, quoi. Si t'avais foi en minimum en tes premiers niveaux. Et en la curiosité que ça pouvait amener chez le joueur, tu aurais pu distiller toute cette information sur genre niveau 1, niveau 2, niveau 3, et avec des nouvelles découvertes au passage, quoi. Généralement, les jeux qui essayent de fourre-tout dans ton premier niveau regardent toutes les fonctionnalités qu'il y a, et parfois en plus avec des stop tutoriels, quoi. Ça arrête la rythmique du jeu, t'as une fenêtre qui te dit attention, vous pouvez faire ça. Après, t'as envie de te dire non, mais non, stop, j'arrête, changement de jeu, quoi.
Mais c'est un souci d'écriture, en fait. Je pense que c'est des gens qui savent pas écrire un bon début. Donc forcément, quand le début est pâteux, on n'a pas forcément envie d'aller au milieu et alors encore moins d'aller à la fin. Après, évidemment, il y a des jeux qui se rattrapent, mais j'ai en tête les débuts atroces des Assassin's Creed, notamment des premiers, là, où on commence dans le présent. Non, mais c'est l'enfer.
Ouais.
Normalement, pour essayer de lier tout ça. Pendant 30 minutes, on est plongé dans un ennui profond. Et on l'oublie parce qu'une fois que le jeu commence vraiment, et quand les gens parlent d'Assassin's Creed, en fait, ils parlent que des phases de gameplay dans le passé, mais les phases dans le présent, on en reparlera sûrement à un autre moment, elles sont atroces, quoi. Enfin, c'est vraiment de l'anti-fun et ça n'apporte rien.
Bah si, pour lier le tout, ça apporte la possibilité de faire des suites à ce jeu en justifiant ça, que c'est le protagoniste principal qui se balade d'air en air, et je pense que ça a été l'idée globale derrière ça, c'est comment justifier que les suites aient cette même trame et qu'il y ait une logique derrière. Donc on te parle d'assassins, de lignées d'assassins, de génétique. C'est la phase dans le présent, elle ne sert qu'à ça, quoi.
Oui, mais alors là, et on y reviendra sûrement à un autre moment, mais je te propose d'aborder plus tard ce que j'appellerais le syndrome de l'élu. On est toujours obligé de jouer l'élu dans un jeu pour que ça soit drôle. Voilà. Bon, il y a des points négatifs et des points positifs, évidemment, on va pas s'étendre là-dessus, mais je pense que c'est un des écueils des franchises Ubisoft de toi Assassin's Creed, on doit jouer l'élu, alors que qu'est-ce qu'on s'en ficherait de lier narrativement un truc qui se passe en Grèce antique, puis après pendant la Révolution française, enfin on s'en fiche, ça pourrait être la même histoire de la même secte, voilà, après à des moments différents. Je pense pas que ça changerait grand-chose à l'expérience des joueurs, mais
c'est bon. Vrai que c'est un rajout particulier. Pour en revenir rapidement, parce qu'après j'ai une question à te poser. Je pense qu'il y a des. Tu parlais d'écriture mauvaise des premiers niveaux, mais je pense aussi qu'il faut réfléchir au. On fait un jeu, donc comme tu disais, on investit plus de temps au début. On arrive, on finit notre jeu, donc de manière plus ou moins bâclée avec des guillemets, hein, ça on parle de manière généraliste. Eh ben, je sais qu'il y a des développeurs qui se retrouvent dans leur premier niveau en se disant, mais en fait, les joueurs, ils comprennent rien. Après les fast tests, tu vois bien que les joueurs passent à côté de certaines choses. Et si les tutos sont mis là, et parfois de manière très grossière, c'est qu'au tout dernier moment, les mecs se sont dit, attends, là, ça va pas le faire. On va avoir des encore plus mauvaises reviews parce que les gens ne comprennent même pas qu'on peut faire ça, qu'il faut passer par là, qu'il faut activer tel truc. Il y a pas mal de rajouts aussi de dernière minute.
Ben,
hein.
Pour moi, ça veut dire que tu as été un mauvais game designer, en fait. C'est
bien sûr.
Du game design, c'est justement de t'expliquer les choses par la narration environnementale et tout, que le joueur va comprendre tout seul. Évidemment, il y a des choses qu'il faut qu'on t'explique par un petit tuto et tout ça. Je comprends certaines mécaniques un peu plus complexes. Mais si toutes les 20 secondes, il faut te stopper pour te dire, en fait, si tu veux trouver tel objet, il faut aller dans le menu start, puis faire ça, 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 puis ressortir, revenir, et là, t'as ton objet. Non, ça m'agace.
Non, c'est clair. Et puis, c'est que c'est pas intuitif. Donc oui, je suis d'accord, en termes de game design, il y a des choses qui se sont pas faites, quoi. Donc, petite question, avant d'enchaîner avec la suite. Est-ce que t'as déjà fini un jeu à 100%? Parce que la première question, c'était finir un jeu.
À 100%?
À 100%.
100%.
100%.
Peut-être, oui. Si j'ai réfléchi deux minutes, mais alors j'étais beaucoup plus jeune. Je vais citer alors Pokémon version bleue. Oui, je sais, je suis un vrai joueur hardcore gamer de souche. Ouais, je l'ai fini à 100% parce que j'ai eu les 151 Pokémon, tous les badges, j'avais plein d'argent. J'étais riche.
La richesse.
Ouais, dans Pokémon.
Ok. D'accord, jeu Nintendo donc. Hein. Jeux sans succès, les jeux
sans
Nintendo.
Succès. Après, pas dans succès. Plus tard, non, parce que. Non, voilà, c'était ma réponse, non, parce que non.
Parce
et
que
toi,
non.
Clément
bon, il y en a eu quelques-uns de manière différente. J'ai fait 100% sur GTA 3 et j'ai fait le faux 100%. Enfin, il y a un 100% sur GTA 5 qui correspond à un. Ouais, voilà, t'as le 100% et le 110%. J'ai fait le petit 100% de GTA 5. Après, il y en a quelques-uns où je les ai finis avec les succès. Je pense qu'à une époque, de toute façon, on en parlera un peu plus tard, mais de pourquoi, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir finir les jeux. Et ouais, j'ai une période qui n'est plus, qui est bien révolue, avec une gestion du temps un peu différente, où à cette époque, on pouvait se permettre de terminer les jeux. Ouais. Je te laisse. Non, je vais. On dit qu'on va, on dit que je vais. On va s'écouter la musique du boss final de Sonic 3 et on revient juste après pour parler succès. De retour sur Radio Campus 88.3, vous écoutez toujours Double Saut, on vous parle de finir ces jeux. On a essayé de classer en fait les aspects positifs et négatifs, entre guillemets, de la complétion. Donc là on va parler succès, easter egg et New Game Plus en gros. Les succès, c'est ce qui maintenant dans la tête des gens participe grandement à finir un jeu à 100%. On appelle ça platiner, ça vient des trophées platine de PlayStation. Les succès, ça a commencé quand populairement, on va dire que ça a commencé avec le Xbox Live pour l'Xbox 360 pardon, en 2005. Ça a été suivi un peu plus tard par PlayStation et tout le catalogue PlayStation avait des succès à partir de 2009. Et c'est ce qui a commencé à nourrir un peu cette passion de finir à 100% ces jeux. Quand ça a commencé, il y avait certains joueurs qui consommaient plus de jeux qu'avant, histoire de pouvoir finir, donc sur Xbox c'est des points et c'est 1000 points pour finir un jeu, de finir beaucoup plus de jeux pour avoir beaucoup plus de points pour se la péter. Tout simplement,
et oui, se la péter, et nous on aime bien ça, se la péter à double saut, on se la pète un max, on fait des doubles sauts. Non mais pour revenir plus sérieusement à ce que tu dis, effectivement il y a eu, bon, je pense que avant, dans les années 80-90, finir un jeu c'était principalement pour la cinématique de fin. Il y avait toujours un petit truc, une petite animation en plus, et voilà, à l'époque on était assez friands de ce genre de choses, puisqu'on en voyait peu. Puis les cinématiques se sont développées, les jeux se sont mis à vomir de la cinématique à n'en plus finir à partir des années 2000. Donc on a trouvé ça un peu moins cool, les cinématiques de fin. Il s'est mis à voir les différentes fins dans les jeux. Mais pour en revenir à toutes ces choses qui nous donnent envie de finir, je pense que petit à petit, tu parlais de GTA 3 qui a mis le pourcentage dans les sauvegardes. Enfin, c'est sûrement pas le premier, mais en tout cas c'est le premier nous en tête. Qui nous revient de se dire, là on voit je suis à 20% du jeu, à 30, à 40, et de se dire voilà je vais le finir à 100%. Il y a finir l'histoire principale, ça c'est je pense quand même quelque chose qu'il faut dire. Il y a peut-être ici des gens qui nous écoutent et qui se disent mais qu'est-ce qu'ils racontent ces deux types, pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça,
ils sont cons, c'est vraiment deux sauts.
J'espère que ces gens ne disent pas de gros mots, en tout cas nous à la radio non. Excusez-nous. Et on s'excuse pour les enfants, Pinson voulait dire ils sont mignon, c'est petit. Alors, on reprend. Non, mais finir une histoire, on va prendre. Voilà, Mario, on finit l'histoire, on bat Bowser, et après, on a encore, 40 étoiles à prendre dans Mario 64. Et tous les jeux maintenant fonctionnent un peu comme ça. On fait la fin du jeu, c'est-à-dire on résout le nœud principal de l'histoire, mais le jeu pour autant n'est pas fini. Il nous reste des choses à faire et des choses à découvrir. Qu'est-ce que c'est un easter egg, puisque tu fais le malin ?
Qu'est-ce que c'est un easter egg ? C'est un œuf de Pâques pour sa traduction littérale. Et c'est plein de petits trucs qui sont cachés dans des jeux pour faire sourire ou bien pour émerveiller les joueurs. Il y a plein d'easter eggs de différence. Tous les jeux, enfin pas tous les jeux. Le premier vrai easter egg du jeu vidéo, c'est un niveau caché dont je ne connais plus le nom. En gros, il faut prendre une clé et faire un truc totalement illogique dans le jeu pour revenir en arrière, pour aller à une zone cachée où vous avez le nom du développeur qui a créé cet easter egg. Et maintenant, vous avez des clins d'œil au jeu des licences du même studio, à d'autres trucs. Il y a des easter eggs qui ne sont pas encore découverts. On parlait de GTA V. Il y a un easter egg qui a été découvert qu'il y a un an et demi qui te permet de te transformer en animal grâce à des graines que tu manges. Voilà, c'est plein de petits trucs secrets, cachés, qui, en plus de ça, donc sur des jeux vieux où il n'y avait pas de succès, pas d'informations des développeurs, c'était un peu au petit bonheur la chance et à la communauté qui cherchait. Je parle de GTA V. GTA V, il y a eu beaucoup de choses sur Reddit pour que les gens puissent partager les informations de leur easter egg.
GTA V, ce qui était génial, c'était cette quête aux easter eggs, justement. Bon, alors il y avait forcément celui de la soucoupe spatiale où, en fait, à la fin, si on finit le jeu
dans le faux 100%, enfin le 100%,
on peut avoir la soucoupe qui apparaît à
minuit sur le mont Chiliade.
Exactement. Mais en fait, celui que tout le monde a cherché pendant des années, c'était le fameux jetpack. Il y avait même quelqu'un qui avait retrouvé un espèce de dessin où on voyait un bonhomme sur un jetpack, ce qui a mis du charbon dans le feu déjà d'Internet à ce moment-là. Et moi, je me rappelle l'avoir cherché. Et ça, c'est assez fun, en fait, de se dire ces quêtes qu'on se lance un peu tous, là. c'est très futile en fait les quêtes secondaires au final. Mais
ça dépend quel jeu. Il y a des, on en reviendra sur les quêtes secondaires après, mais tu as des quêtes secondaires qui sont tout un pan de l'histoire que certains pourraient ne pas voir parce qu'ils ont fait que la quête principale. Mais tu as vraiment des développements de personnages sur certaines side quests dans certains jeux qui sont pas va me chercher 10 pots de sanglier. Mais on revient à toi.
C'est ce qu'on appelle le lore. Mais ce que je dirais, c'est que les Sopranos, en fait, une des choses qu'elles ont, que la série a faites pour la télévision, c'est par exemple étendre le nombre d'arcs narratifs par épisode. Quoi. Au début, on était à 3 par épisode. Et à la fin, on arrive à 11. On suit 11 histoires différentes. Et en fait, dans les jeux, il y a quelque chose comme ça où on a notre quête principale, mais on suit par les quêtes secondaires. Et moi, ce que je préfère dans les quêtes secondaires, c'est ces quêtes qui sont un peu longues, c'est-à-dire on fait pas juste un truc pour le personnage secondaire, on va en faire plusieurs, on va nouer des choses. Et alors quand il revient lui dans la quête principale, voilà, il s'est créé une connexion parce qu'on a été prendre des chemins de traverse avec ce personnage. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Les Easter eggs, c'est plus de la fouille en fait dans l'exploration. Mais je crois qu'on l'avait déjà abordé quand on avait parlé de l'aventure dans notre premier épisode. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, les inconditionnels qui ont le t-shirt double saut uniquement en vente chez Kukai.
Merci. Donc oui, les deux en plus sont parfois liés parce que donc il y a dans les succès, faut bien comprendre que maintenant que c'est démocratisé, que tout le monde en fait, les développeurs réfléchissent. Alors parfois c'est des succès très très nuls. Je reviens sur Harry Potter, enfin Hogwarts Legacy, où il y avait un succès. Moi, en me disant, est-ce que je vais faire le 100% sur le jeu, parce que c'est quand même relativement facile. Je vois un succès, c'est retourner une vache 10 fois avec Flipendo. Voilà, je l'ai fait. Et puis après, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça?
Alors, est-ce que tu as eu le succès secouer sa baguette?
J'aurais aimé que ce soit le nom de sa baguette, mais non, mais je pense pas qu'il pouvait se le permettre. Mais voilà, il y a beaucoup de succès qui servent à rien, alors que tu as d'autres jeux où les succès sont réfléchis par les développeurs pour... Soit que tu les vois et que ça te donne envie de faire des choses, soit il y a des succès cachés que tu vois pas, ou c'est des trucs justement, tu tombes dessus par hasard et tu trouves ça encore plus cool que les développeurs t'aient fait un petit succès pour ça. Je reste sur les succès rapidement. On parlait régulièrement du jeu Stanley Parable. Stanley Parable, c'est un exemple de ce que tu peux faire avec les succès de manière totalement méta et YOLO. Je l'avais relancé pour l'émission il y a pas si longtemps que ça, et ça faisait 5 ans que j'y avais pas joué, et tu vois le succès. Bravo, vous n'avez pas joué à Stanley Parable pendant 5 ans. Il y a des succès aussi que tu peux développer, enfin récupérer que en passant par la console et du coup en trichant un peu. Mais voilà, ça fait partie des choses. C'est un exemple où là, pour le coup, c'est pas finir, mais c'est des petits clins d'œil. Mais c'est devenu vraiment la pierre angulaire de ce qui est finir les jeux, quoi.
Donc voilà, ce qu'il faut peut-être retenir de ce qu'on est en train de dire, s'il y a quelque chose à retenir, évidemment, c'est que les game développeurs et notamment les game designers font en sorte de créer des appâts tout au long du chemin pour nous guider déjà jusqu'à la fin, nous retenir notre attention, mais surtout il y a une étape supplémentaire qui est celle de continuer ce chemin après la fin du nœud principal pour nous inviter à tirer toujours plus le fil du jeu jusqu'à aller au bout. Et peut-être qu'on peut, avant d'envoyer la prochaine musique, finir sur cet exemple d'Hadès où au début, on croit que voilà, le but, faut tuer Hadès. En fait, on se rend compte qu'il faut le tuer plusieurs fois. Après, on le tue plusieurs fois. On se dit, ah bah, maintenant, il faut avoir les meilleures relations avec tout le monde. Puis en fait, ça prend une telle longueur parce qu'il y a plein de choses à faire. Bien après avoir en fait ce qu'on pensait être la première fin du ouais. jeu, c'est-à-dire la fois où on tue Hadès, on croit qu'on a vaincu le jeu. Et en fait, le jeu ne nous dit pas du tout. Presque, je viens de commencer.
Oui, c'est ça, en fait, c'est le renouveau du jeu, en mode, voilà, le vrai jeu commence, c'est ça qu'il faut faire. Je sais qu'il y a des joueurs qui se sont arrêtés à voilà, ce qu'il fallait faire en première étape. On va pas spoiler pour ceux qui l'ont pas fait, parce que c'est un super jeu. Mais c'est vrai qu'on peut considérer une petite fin, une vraie fin, puis bah, le mec qui a décidé de faire tous les succès comme un taré, parce qu'il y a des trucs un peu tarés à faire sur Hades, ça c'est lui il a tout fait, quoi. Lui, il a vraiment la fin ultime du jeu. Je te laisse. On n'a pas parlé du New Game Plus. On peut faire ça rapidement. Le New Game Plus, c'est quand vous avez fini le jeu et que le jeu vous propose de recommencer avec généralement le même personnage qu'avant, les mêmes objets et ce que vous aviez déjà débloqué pour recommencer depuis le début.
Pour faire simple, des jeux comme Resident Evil, ce sont un peu, à mon sens, c'était les plus connus à faire ça. C'est-à-dire, on finit le jeu une première fois, surtout par exemple le 3, Et après, on débloque des armes, on le finit encore plus vite, on redébloque d'autres armes. Et en fait, vraiment, voilà, le but du jeu, c'est de le finir.
Mais... Donc là, on est dans le rallongement de la durée de vie plus, quoi, parce qu'on vient de doubler instantanément. Bon, on ira peut-être plus vite que la première run, mais dans tous les cas, on rallonge la durée de vie là encore plus, parce qu'on propose aux joueurs de recommencer avec différentes modifications, des trucs plus durs, potentiellement des nouveaux monstres, des nouvelles armes, comme tu disais. Et là, la plupart du temps, c'est positif. Bah, en fait, on propose un New Game Plus. Si le jeu est mauvais, les gens n'auront pas envie de recommencer une nouvelle partie. Donc, ça arrive dans des jeux qui sont généralement fonctionnels, où les développeurs ils sont dit « Ok, il y a quand même un intérêt de recommencer, ça ne va pas dégoûter les joueurs. »
Alors, vous connaissez peut-être, pour ceux qui nous écoutent, le principe de double saut. On parle jeux vidéo et on fait des double sauts musicaux. Et après musique de jeux vidéo, nous allons passer dans... La folk de Bob Dylan, et je vous propose deux pistes ce soir qui sont en fait des morceaux qui n'ont pas été sortis, voilà, officiellement. Ils sont sortis officieusement après, puis officiellement, mais voilà, ça c'est un morceau que Bob Dylan ne veut jamais chanter en concert. Voilà, il estime qu'il n'est pas fini. On vous laisse savourer ce qu'est un morceau pas fini. À tout de suite.
Tout de suite.
Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody sing the blues like Blind Willie McDowell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, ghost of slavery ships. I can hear them tribes moaning, hear that undertaker's bell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway, I can hear them rebels yell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. we are what words is, but power and greed and corruptible sin seem to be all that there is. I'm gazing out the window of the St. James Hotel.
C'est Double Saut avec Amir et Clément.
Et Clément.
Whoop.
Et ben pour une musique qui est pas terminée d'après l'auteur, c'est vraiment bien. Donc on vous a présenté ce qui nous plaisait plus ou moins dans le positif de la complétion des jeux. On va parler de ce qui fâche un peu plus. J'ai en tête malheureusement beaucoup de jeux Ubisoft quand je vais parler d'Avant-Poste. Donc on a en tête surtout les Far Cry et après, bah maintenant que je vous ai dit ça, vous avez en tête plein d'open world sortis depuis 2018 avec à chaque fois des petits avant-postes à faire où on trouve ça très très chiant. Just Cause s'est un peu moqué de ce genre de choses parce que Just Cause, tout n'est qu'avant-poste à détruire pour faire des petits points, un jeu orienté autour de la destruction dans un monde ouvert permissif, mais à côté de ça, la plupart du temps, c'est quand on vous offre un monde ouvert, et ben, faut bien mettre des trucs à faire dedans, ce qu'on appelle les fillers, et ça va être tout un tas d'activités. Alors les fillers, il n'y en a pas que dans les mondes ouverts, hein, parce que j'ai commencé par ça. Le joueur du grenier avait appelé ça à l'époque, et continue d'appeler ça les patounes, des trucs à collecter, donc ça il y en a dans d'autres jeux, mais là l'idée même d'avant-poste qui vient vraiment surtout de Far Cry et qui a été réutilisée quasi tout le temps, c'est une plaie de... c'est un aspirateur à fun. Vous en avez fait un, vous avez dit ok c'est ça, et là vous regardez votre carte et vous faites, il y en a 30 autres, c'est horrible.
Mais c'est tout à fait, moi par exemple je te parlais de Cyberpunk quand on préparait l'émission, on finit le début qui est vraiment très très cool. Voilà, bah c'est ce qu'on disait, il y a eu plein d'argent investi, du temps, on est dans une histoire super, on est là, ouais, ça va être génial, c'est trop beau. On ouvre la map, on voit des trucs partout, c'est aller livrer une voiture. Puis il y a les gens qui nous appellent au téléphone pour nous dire de faire des trucs pendant qu'on fait déjà des trucs. Donc,
Hey Johnny Boy, tu fais un truc chiant et je te propose de faire un truc encore plus chiant. Ah bah merci.
Non mais ça vient d'un problème que l'industrie n'arrive pas à résoudre. Dans le sens où durée de vie équivaut encore, hélas, trop souvent à bon jeu. On est un peu revenu, mais c'est vrai que aujourd'hui, un grand jeu qui se finit en 20 heures, bah quand même, les gens vont trouver ça court. Et donc, on a créé voilà, tous ces fillers, ce remplissage pour étendre la durée de vie. Par exemple, je crois que beaucoup de gens ont aimé The Witcher 3. Moi, je ne l'ai pas fait en entier, j'ai joué un tout petit peu.
Mmh.
Mais de ce qu'on peut lire sur le jeu, c'est qu'arrivé à un certain moment, bah, y a encore un grand pan d'histoire à faire, mais on a déjà fait 60 heures. Et il peut y avoir une forme de fatigue, même si le jeu est super. Et moi, je sais que je l'ai ressenti énormément avec Red Dead Redemption 2, où tout le monde peut argumenter que ce qui se passe avec... après la mort d'Arthur, attention spoiler, n'écoutez pas ce que je viens de dire.
De toute façon, si vous avez joué à Red Dead Redemption 1, vous connaissez la fin parce que c'est le début. Enfin, je me comprends.
Il se comprend. Mais il y a ce, il y a, comment dire, ce truc où on se dit, mais toute cette histoire est rajoutée, il faut refaire ça. Je veux dire, le moment où on nettoie les tables dans la ferme, là, où on prend le fumier et tout. Alors oui, on peut dire, c'est super, c'est pour l'immersion.
Et c'est pour le lien avec le premier. Moi, ça a été mon ressenti, en tout cas.
Oui, alors moi, je l'ai pris vraiment comme du remplissage. Tiens, jouer encore un peu au jeu. J'y étais complètement froid, mais parce que je crois aussi... On disait finir un livre, finir un film. Moi, je crois qu'un film, ça doit savoir bien conclure. C'est-à-dire, j'aime pas non plus dans les films, une fois que le nœud principal s'est joué, qu'on reste encore 35 minutes à attendre.
À regarder un peu les conclusions de ça, quoi.
Par exemple, les films d'action modernes ne savent plus du tout s'arrêter quand l'action s'arrête. Ils continuent pour des résolutions dont tout le monde se fiche, hein, éperdument, en fait. Et je crois qu'il y a plein de jeux, c'est comme ça. C'est-à-dire, l'action se finit. Et on doit continuer faire ses quêtes secondaires, aller voir un temple pour prendre une armure dont on n'a plus besoin parce qu'on a fini le jeu. Et
après, ça c'est aussi subjectif, c'est au choix du joueur, quoi. T'as acheté ton jeu, t'as fini l'histoire principale, est-ce que t'as envie d'investir plus de temps? Est-ce que t'en as le besoin, l'envie? Est-ce que ça t'apporte du plaisir? Je pense qu'après, c'est quand même au choix de chacun, quoi.
Alors je suis d'accord, mais sauf que les game designers et surtout, je pense, les producteurs et tout ça derrière demandent d'une part à ce qu'on étire la durée de vie des jeux pour retenir les joueurs plus longtemps, surtout que maintenant ça veut dire microtransactions et tout ça, et surtout, donc, en étirant la durée de vie, demandent aux game designers de rajouter en fait de la durée de vie artificielle par les collectables en fait qui ramassent ce sac à dos dans Spider-Man. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on s'en fiche quand on joue à un jeu de ramasser 160 sacs à dos? Je comprends, dans GTA 3 c'était rigolo de trouver les paquets cachés, mais on était en 2002.
Oui, c'est clair. En fait, y avait que les paquets cachés, il n'y avait pas d'autres trucs en plus. Maintenant, les collectables, t'en as de différents types, quoi. Et c'est toujours un plaisir quand tu regardes ta liste. Je reviens sur Hogwarts Legacy, tu vois la liste que t'as des trucs à récupérer genre à Poudlard. Bon, déjà, moi, pour ma propre expérience, j'ai pas relancé le jeu. Je vais vous balancer une information, j'ai pas relancé le jeu depuis. Donc, vous mettez start et vous voyez, genre, temps sur temps à tel endroit. Bah, même ça, c'était buggé. Donc, moi, j'avais pas les bonnes stats d'afficher. Donc, déjà, pour te dire, si t'as envie de te balader dans Poudlard et de le faire quand même, bah, quand tu te rends compte que entre ce que t'as récupéré et ce qu'on t'affiche de tu dois encore récupérer ça, c'est faux, t'es un peu dégoûté, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a une notion de si t'aimes vraiment, vraiment le jeu et que tu aimes passer du temps dedans, t'y vois pas de problème. Et parfois, tu vois, genre dans Zelda, on parlait de Zelda avant l'émission, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de noix à récupérer, les noix Korogu. Les noix, elles sont utiles pour votre expérience de jeu parce que vous pouvez échanger ces noix contre des emplacements d'inventaire pour vos armes, boucliers et arcs. Et il y en a genre 1000. Moi, je sais que quand j'ai joué à Breath of the Wild, j'en ai fait 120, ça me suffisait largement pour être fort. Mais je ne suis jamais dit, allez mon Clément, on va faire les 1000. Non, c'est mort.
Mais moi, très simplement, une fois qu'on ne pouvait plus améliorer ses sacoches, j'ai dit, bon, bah, j'en ai plus rien à faire de ces noix. Et ma vie, mais vraiment, s'est passée parfaitement depuis ce temps-là. Petite anecdote sympa que j'ai lue sur Twitter, la maman de quelqu'un que je ne connais pas a eu sa 1000e noix Korogu le jour de la sortie du nouveau. Et elle est partie se l'acheter après avoir enfin fini le jeu après 6 ans. Voilà,
on espère que ses enfants vont bien.
On peut féliciter cette maman et son fils et leur famille.
Et donc après, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est posé là dans le jeu où les développeurs disent de toute façon, on l'a fait, ça remplit le jeu, ça justifie une partie de la carte. Vous le faites pas. Je pense que les développeurs, de toute manière, eux aussi, s'en foutent d'une certaine manière. Ils l'ont fait, ils l'ont mis, on a fait comme tout le monde, on a mis des patounes. Vous ramassez les patounes ou non, bah, de toute façon, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas faire les 100%. Mais maintenant, mais faire le 100%,
peut-être
ça...
Peut-être qu'on peut faire une comparaison avec le 100% et finir un cahier de coloriage et vraiment pas dépasser d'un trait. Gommer si on dépasse, et voilà. Ou se dire, voilà. Et en plus, faire les dessins de la bonne couleur. Alors qu'il y en a, ils vont faire n'importe quoi.
Non, Timothée, ça c'était du rouge et pas du bleu. Tu as perdu, Timothée, tu as perdu au dessin.
Et peut-être que voilà, finir un jeu à 100%, il y a de ça, quoi. Se dire, voilà, mon cahier, il est bien colorié, il est, j'ai vraiment mis les bonnes couleurs, le bleu est à l'endroit du bleu.
Non, mais là, je te coupe, mais dans Zelda, parce que ça me fait penser à... Tu me parles de cahier, dans Zelda, il faut prendre tous les objets en photo pour remplir l'encyclopédie. Tous les monstres, tous les lézards qui existent en plein de types, tous les, tout, faut tout prendre en photo. Moi, on m'a posé la question sur Twitch hier soir, est-ce que tu comptes le faire ? J'ai dit non. Et j'ai pris 3 photos, à chaque fois je me moquais. Enfin, je me moquais gentiment, mais...
Non, mais je suis d'accord avec toi, hein, et je vais pas le faire, mais seulement, je trouve l'idée derrière ça intéressante de se dire, tu bâtis une encyclopédie. Bon, il l'avait déjà fait dans c'est pas le premier jeu à le faire, hein, c'est pas... Mais je trouve toujours l'idée intéressante de se dire, on bâtit une encyclopédie, on se renseigne sur un monde... Et on le fait un peu à la manière de chercheur, c'est-à-dire qu'on doit prendre chaque chose, on prend du temps pour ça. Et voilà, moi je suis toujours intrigué par les jeux qui nous demandent de s'arrêter pour prendre ce petit temps afin de l'observer et tout ça. C'est quand même, je trouve, faire une encyclopédie, pour moi, c'est différent de ramasser des sacs à dos.
C'est mieux, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est quand même mieux, et tu as raison, c'est plus immersif. On est vraiment sur on lie l'action à la recherche et à l'envie de découverte. Mais c'est juste que bah là sur Zelda, vous mettez start, vous regardez encyclopédie, vous regardez le nombre d'entrées, vous faites ah ouais, d'accord. Et puis bah moi je me rappelle avoir commencé un peu sur Breath of the Wild, et après en me disant bon, il me manque trop de trucs, et après faut savoir où c'est. C'est toujours le problème, vous commencez à faire ce genre de choses-là, puis il vous manque 2-3 cases, vous savez pas où c'est. L'enfer. Vous avez investi autant de temps pour finir, mais là, les dernières informations, à moins d'aller checker sur Internet pour voir ce qui vous manque, naturellement, vous le trouverez pas. Et c'est là où je trouve que ça devient paradoxal. C'est que tu arrives à un point où tu peux plus finir par toi-même, tu es obligé d'aller chercher de l'aide, comme si c'était un devoir, tu sais, comme si c'était ton taf. Tu vois, genre, ah merde, j'ai quand même pas bien fini mon taf, je vais aller chercher de l'aide sur Internet pour pouvoir me dire, je vais rentabiliser le temps que j'ai déjà investi, quoi.
Mais ça, je pense que c'est ta conception, parce qu'il y a des gens qui doivent se refuser d'aller sur Internet et qui passent des heures, voire peut-être des années, à essayer de faire un truc qui prendrait 5 minutes si on allait voir la solution. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est subjectif. Mm-hmm. Ce qui n'est pas subjectif, c'est que nous allons écouter de la musique.
On adore la musique.
Exactement, évidemment, on aime la musique. Ce qui est encore moins subjectif dans tout ça, c'est que nous allons écouter Al Green nous donner une leçon de groove. Voilà, un morceau qui n'a pas été release pendant l'exercice de sa carrière. Il est sorti un peu plus tard, dans les années 90. Le morceau s'appelle Everything to Me. Je meuble un peu, mesdames et messieurs, parce qu'en fait, j'étais moins prêt que ce que je ne le pensais pour envoyer le morceau.
Le professionnalisme et l'honnêteté, quoi. Ça, c'est beau.
Incroyable. Et d'ailleurs, je vous ferai bien de la pub pour quelque chose, mais nous n'avons rien à vendre. Alors, on se retrouve tout à l'heure.
Nothing can get in our way. I'm coming home.
De nouveau sur Double Saut 88.3.
Ça discute, ça boit de l'eau et on n'était pas prêt, pardon.
Et on n'était pas prêt du tout.
Donc, deux petits tours. Voilà, on se stabilise. On se stabilise en musique.
Vous êtes confortable sur Radio Campus 88.3.
Je reviens rapidement parce que ce que je te disais là, pendant cette courte pause, on a oublié de parler vite fait des quêtes secondaires parce qu'on a dit qu'on y reviendrait. On a en tête les quêtes FedEx du forgeron qui vous dit merci d'aller chercher mon marteau dans le volcan et de me le ramener. Bien sûr, ça fait partie d'un truc qu'il faut arrêter. Les quêtes secondaires, si c'est secondaire, faut quand même que ce soit intéressant, pas juste pour remplir.
Mais je ne sais pas, de temps en temps, c'est sympa d'aller chercher un marteau dans un volcan.
Oui, c'était imagé, mais si je te dis chercher une baie dans un buisson.
Mais oui, mais voilà, mais c'est le problème, c'est cette si je n'arrive pas à parler, la systémisation en fait de ce concept d'aller chercher un truc pour le ramener. Soudain, on se met à faire que ça dans le jeu, et c'est fatigant quoi. Et puis on le voit en fait, puis à la fin, on en a marre.
À la fin, on en a marre ? Non, parce qu'en fait, je dis encore de rebaisser le son. Je pense que c'est encore un poil fort. Excuse-moi, mon ami, je te fais des gestes. On a l'impression que je suis un militaire.
Des gestes et je ne les comprends pas. Ils ne s'expriment pas convenablement, mesdames et messieurs. C'est un scandale. Nous sommes désolés de perturber cette.
C'est inadmissible. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, la vraie question, c'est.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi on finit les jeux ? Qu'est-ce qui nous. Après tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui nous pousse vraiment à finir un jeu ? Pourquoi ? Je te pose la question. Pardon ?
J'ai pas de vie, donc j'ai rien à faire de mon temps. Donc, ouais,
Alors, donc les gens qui finissent leur jeu n'ont pas de vie, c'est ça que t'essayes de dire ?
Non,
est-ce que tu veux sortir du studio tout de suite ?
C'était une boutade, mon ami Clément. Non, en fait, pourquoi on finit les jeux ? Bah, je pense qu'à un moment donné, on trouve un attachement particulier dans un jeu, on aime l'histoire qui nous est racontée, et on prend du plaisir à passer dedans, et comme tout, on a envie d'en voir la résolution, on a même envie d'y participer. Par exemple, quand je jouais à Ghost of Tsushima, oui, j'avais envie de tuer les Mongols jusqu'au dernier. J'ai rien contre le peuple de Mongolie, hein, mais je vivais à fond mon rôle de samouraï du 12e siècle.
L'immersion. Donc ça, toi, en tant que joueur, c'est... Ouais, moi, de toute façon, je me rejoins dans ce que tu dis. C'est, voilà, c'est, nous, on a maintenant, je pense, envie de... Avec nos âges avancés, on a envie de finir les jeux surtout qui nous plaisent et qui nous galvanisent et qui... par plein de mécaniques et de choses bien faites, nous donne envie justement de dire allez, celui-là, je vais aller au bout. Je ne vais pas récupérer toutes les noix de Zelda Tears of the Kingdom, mais je compte bien faire au moins tous les sanctuaires et j'ai vu 2-3 autres petits trucs qui pouvaient mériter d'être terminés. Mais je ne prendrai pas malheureusement les photos. Après, ça c'est notre avis de joueur à nous. J'ai eu la chance de poser cette question sur Twitch la semaine dernière et j'ai quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur quelque chose, qui m'a dit... Là, en fait, tu nous poses une question qui s'apparente. C'est vrai qu'on parle beaucoup de jeux solo. Il m'a répondu, moi, je suis un joueur multijoueur qui ne joue qu'à des jeux multijoueurs, donc que ce soit du LoL, du Dota, du Rocket League, du Counter-Strike. qu'est-ce que ça représente finir un jeu pour ce genre de joueur. Lui m'a répondu, en tout cas pour lui-même, que si dans ces jeux que je viens de vous citer, il y en a un que vous appréciez particulièrement et que vous aimez vous la donner en ranked dessus, et que votre objectif c'est de toujours être le meilleur, lui m'a dit voilà, c'était ça pour moi la complétion dans les jeux en ligne. Dans les jeux en ligne compétitifs, j'entends, parce qu'il y a aussi autre chose sur les MMO, c'était voilà, d'être le meilleur, d'être le plus fort. Alors, on ne peut pas parler de complétion, mais son avis, je trouve intéressant. Parce qu'effectivement, là, on parle de finir des jeux solo.
Son avis, il est intéressant, mais parce que pour moi, il pose la différence de fond entre le jeu solo et le jeu multi, surtout en ligne, qu'on a essayé d'évoquer, justement, quand on parlait des jeux en ligne. C'est... la compétition d'un côté contre les autres, le côté sportif en fait du jeu vidéo, son côté plus performatif face au jeu solo où va y avoir à un moment donné de la performance à fournir face à des boss, à des énigmes, mais où la finalité du jeu elle est pas là, elle est par le voyage, par les émotions que va te faire ressentir le jeu. Donc je pense que effectivement finir un jeu, ben on n'entend pas la même chose, mais aussi peut-être que dans nos têtes, finir un jeu, c'est passer à un autre jeu. En soi, on finit
tourner
un jeu...
Tourner la page, tu veux dire ?
Bah oui, je crois qu'on finit un jeu, on se dit là, c'est fini, parce que soit, bon voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire, et soit parce que bah, on y a passé assez de temps. Très simplement, tout à l'heure, je vais reprendre l'exemple de Red Dead Redemption, je vais rester là-dessus. Moi, j'ai estimé que j'avais fini le jeu, en fait, j'avais fait plein de choses avec Arthur, et je dirais même que j'étais tellement déçu... qu'on puisse plus le jouer, j'avais plus d'intérêt. Moi, je m'étais attaché à ce personnage, mon expérience du jeu s'est faite à travers ce personnage. Bon, il est mort, très simplement le jeu c'est fini pour moi. J'accepte que les développeurs ont voulu amener le jeu ailleurs, parce que c'est pas Arthur au final, c'est qu'un personnage secondaire dans l'histoire qui est racontée depuis le premier, mais moi mon attachement s'est arrêté, et donc j'ai arrêté le jeu. Et je pense que fondamentalement, c'est ça aussi, c'est ce qu'on commençait à évoquer avec Hades tout à l'heure. À un moment donné, on estime qu'on a fini un jeu, et ce critère-là, eh ben, que ça soit en multi, en solo, il nous est très personnel.
Ouais.
C'est sûrement le temps passé, la maîtrise obtenue, et on se dit, bon alors, la personne à qui tu parlais sur Twitch, elle y voit le rang, voilà, comme... Le joueur solo qu'on évoquait verra le trophée en platine et tout ça. Mais au final, c'est la même chose.
C'est l'appréciation de chacun, ouais. C'est ça que tu veux dire, en tant que joueur, de toute façon...
Mais c'est un sentiment d'accomplissement, c'est ça que nous fait finir un jeu. Je pense qu'à un moment donné, on se dit... moi, j'ai tendance à lâcher les jeux assez vite. Mais d'ailleurs, c'est une tendance actuelle, parce que, tu le disais, il y a de plus en plus de jeux. Et dans ce torrent de jeux, et notamment avec les choses comme le Game Pass et tout, on essaye un jeu, il nous plaît pas, on passe au suivant. On va pas rester 5 heures sur un jeu si on le trouve mou, si on le trouve lent, alors que c'est vrai que quand on achetait un jeu avant, même s'il était nul,
on n'en avait pas 40.
On achetait un jeu le lendemain de toute façon, donc bah là on allait passer 5 heures sur le début, c'était mou, mais on y allait trouver un certain intérêt quelque part. Donc ça, on a changé complètement notre consommation là-dessus. Donc c'est vrai qu'un jeu moi récemment qui me retient et qui me donne envie d'aller au bout, de passer du temps, de vraiment m'investir, il y en a de moins en moins. Et je pense aussi que tout simplement je leur demande aussi peut-être toujours plus, parce que je crois que plus on finit de jeu, moins on est impressionné, et plus on demande à être impressionnable.
Ah, ça dépend, parce que si tu finis que des très bons jeux ou si tu finis, enfin, faut aussi voir ça comme... Je pense que ça a été aussi une construction, les succès par exemple, enfin surtout les succès, ça a été une construction de presque une addiction chez les gens, la complétion de leur jeu. Donc comme tu disais avant, on avait moins de jeux, on avait plus envie de tendance de les, plus tendance à les finir, mais il va y avoir des joueurs, j'en ai quelques-uns en tête, qui vont consommer très peu de jeux, par contre tous ces jeux qu'ils ont, ils les poncent jusqu'à se dire, de leur propre appréciation, encore une fois, on reste sur du subjectif, ils vont dire, pour moi, là, je l'ai fini. Mais je pense qu'il y a aussi une question de coup marketing un peu, voilà, qui a poussé les joueurs à avoir ce petit côté, ce petit regain d'ego, quoi. Cet ego de se dire, j'ai battu le jeu, en plus maintenant que tout est en ligne, mon profil de joueur, les autres peuvent voir que j'ai poncé ce jeu par rapport à eux. Je pense au Xbox Live où quand tu fais comparaison avec un copain, ça te met bout à bout tous les jeux, quoi. Un peu ce kikimeter, quoi. De te dire, j'ai fait mieux que mon voisin, regardez ce que je sais faire, la puissance. De la puissance, pourquoi je conclue par ça,
mais Clément choisit de conclure sur la puissance, alors moi je vais choisir une autre conclusion en plusieurs points, 127 exactement. Non, c'est personnel de finir un jeu, c'est aussi le plaisir qu'on obtient, le cœur qu'ont mis les développeurs, parce que voilà, si c'est bourré de remplissage, ben, on n'a pas envie de finir. Et je crois qu'il ne faut pas se dire que... Moi, je crois que si on a passé un certain nombre d'heures dans le jeu, on n'est pas obligé de le finir pour en avoir son expérience, quoi. On n'aura pas vu ça, bon, c'est pas grave. Et voilà, finir un jeu, c'est pas une fin en soi. S'amuser, profiter, découvrir des choses dans un jeu, que ça soit ressentir certaines émotions ou un sens, performer sur certaines manipulations ou réflexions, et là, on est gratifié. Et ben ça suffit amplement. Et voilà, et après, si on a envie d'être un complétionniste et d'atteindre les 100%, eh bien, libre à nous aussi.
Libre à chaque joueur. Ouais. J'aimerais juste faire une boucle au final avec ce que tu avais dit tout au début. Parce que ce qui est beau, c'est que généralement, on parle de lire un livre, ça implique la plupart du temps de le finir. Regarder un film, ça implique de le finir. Moins pour les séries, mais encore une fois, ça c'est subjectif. Le jeu, vraiment, c'est de la culture qui est ultra personnelle, quoi. Ultra subjective, où on partage ces différentes expériences et on n'aura pas tout le temps la même. C'est ce qu'on disait sur l'aventure. Et là, c'est d'autant plus parlant qu'effectivement, on décide tous de finir le jeu à notre manière.
Exactement. Et bien, sur ces belles paroles prodiguées par l'ami Clément, nous allons nous quitter. Amir vous dit bonsoir et vous le dit à la troisième personne parce qu'il est débordé.
Il est fou. Il est débordé. On vous embrasse, on vous dit merci et on vous dit au mois prochain. On se quitte avec Push It to the Limit parce que c'est d'actualité.
C'est important de se donner à fond.
On se donne à fond et on vous embrasse. Des bisous.